Vous êtes sur RTL. Pascal Pro.
Parmi les sujets du jour qui vous font immédiatement réagir, Éric Zemmour qui n'aura plus son émission sur CNews après la décision du CSA. Nous sommes avec François. Vous trouvez que c'est une bonne décision ? Bonjour François.
Bonjour Pascal, moi je dirais respectons l'autorité de contrôle.
Respectons l'autorité de contrôle, vous avez raison, il faut toujours tout respecter de toute façon. Et notamment les informations, il faut les respecter. Le flash.
Et à la une aujourd'hui, le début du procès d'Alexandre Benalla, jugé à Paris à partir de cet après-midi. L'ancien chargé de mission au cabinet d'Emmanuel Macron, accusé d'avoir brutalisé un couple lors d'une manifestation, c'était le 1er mai 2018, et d'avoir utilisé frauduleusement des passeports diplomatiques, donc jugé à Paris 3 ans après ce scandale. L'actualité, vous le disiez aussi, c'est Éric Zemmour qui n'aura donc plus d'émission sur CNews après la décision du CSA de décompter son temps de parole. La chaîne l'a annoncé ce matin. J'en suis fort triste, a répondu le polémiste, qui, je vous le rappelle, sera demain l'invité d'Alba Ventura sur RTL. Ce sera à 7h40. Emmanuel Macron, lui, recevra aujourd'hui les médaillés des Jeux paralympiques et olympiques de Tokyo. 213 médaillés français donc qui seront félicités. Ce sera tout à l'heure à l'Élysée à partir de 18h. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Louis Baudin. Et ça se dégrade une nouvelle fois par l'ouest.
Par l'ouest, assez classique, hein, ça circule d'ouest en est, souvent à nos latitudes. Et ça sera encore le cas cet après-midi, puisque là, je vois ces nuages qui s'organisent sur l'Atlantique et qui, petit à petit, vont revenir sur toute la façade atlantique, de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, avec beaucoup de nuages, parfois quelques pluies, et même, attention, un risque orageux, un peu plus marqué en fin d'après-midi, début de soirée, notamment au sud de la Garonne. Et puis, le voile nuageux sera un petit peu plus épais dans la moitié ouest. Et puis, en revanche, plus on ira vers l'est, plus on conservera un temps très sec et très ensoleillé. Quelques nuages quand même autour du golfe du Lyon, on appelle ça des entrées maritimes. Puis les températures, elles montent 21 à 23 degrés près de la Manche, mais 23 à 26 degrés, 28 degrés même parfois dans la moitié nord, et 28 à 31 dans le sud.
Et pour la suite de la semaine, ce sera un jour sur deux, c'est ça?
Oui, c'est ça. De mardi, on va avoir des nuages, de la pluie. Mercredi, nouvelle amélioration.
Pascal Pro est concerné.
Voilà, et puis ça continue comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais peut-être vous refaire le coup du week-end.
Ah, il va faire beau ce week-end?
Et ben voilà, vous avez tout compris. Ah ben, Pascal.
Donc, c'est très bien déjà, bon, s'il fait beau le week-end.
Encore, donc je vous confirme.
Écoutez, je vous remercie grandement. 13h02, je vais vous remercier beaucoup Amandine, mais je vais vous demander quand même de rester quelques secondes, puisque François manifestement parlait du règlement du CSA, et tout à l'heure ce que vous avez dit est intéressant.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Alors François, la décision du CSA, Éric Zemmour n'aura plus d'émission sur CNews après la décision du CSA. Vous dites, vous, il faut respecter le règlement et l'autorité de tutelle. Moi je disais, le CSA a créé, comment dire, un statut de présumé candidat qui n'existait pas pour les autres. Il n'est toujours pas candidat, Éric Zemmour. Et Amandine apportait des précisions là-dessus. Mais d'abord, votre avis.
Alors, je l'entends, ce statut de présumé candidat, et effectivement, il pourrait être reproché au CSA. Maintenant, imaginons que le candidat Éric Zemmour se dévoile d'ici 2 à 3 mois. Et pendant 2 à 3 mois, le CSA l'est laissé pratiquer et travailler sur CNews pendant 3 mois. Il aura donc une tribune d'expression exceptionnelle, et les autres candidats seraient en mesure, alors que ça soit Anne Hidalgo ce matin qui s'est dévoilée, que ça soit Xavier Bertrand, que ça soit Marine Le Pen, hein, je veux dire, on brosse très large, pourraient reprocher au CSA de n'avoir pas agi contre un candidat potentiel qui a mis 3 mois à se déclarer, pour bénéficier d'une tribune, alors que eux ont respecté les règles du jeu. C'est en ça que je veux parler d'autorité de contrôle. Nul ne peut s'affranchir d'une autorité de contrôle. Imaginez demain que nos assureurs ou nos banquiers s'affranchissent de leur autorité de contrôle pour faire un petit peu n'importe quoi.
Non mais j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites, mais la difficulté, c'est quand t'es candidat ou t'es pas candidat. Donc c'est ça qui est. Si tu ne l'es pas et que tu es candidat putatif.
Tout le monde est. Et puis lisez l'article dans Marianne de samedi. Entendez tous les commentaires qui tournent autour. On annonce Éric Zemmour candidat.
J'entends bien, mais les éditorialistes, notamment du service public, qui pensent à gauche depuis des années, on va pas se raconter de salade. Forcément, ils sont pas décomptés non plus. Amandine, je voulais préciser quelque chose.
Oui, c'est Cyprien Sini qui a enquêté là-dessus tout à l'heure et qui m'expliquait ça. Toute personne étant identifiée comme ayant un rôle actif dans le débat politique se voit décomptée en tout tout temps et à la seconde près un temps de parole. Ça, c'est ce qui est indiqué dans le règlement, en quelque sorte, du CSA. Exemple avec Arnaud Montebourg, qui n'était pas candidat, mais dès le mois d'avril, son temps de parole a été décompté. Michel Barnier, dès qu'il n'a plus été ancien commissaire européen, son temps de parole a été décompté et il n'est candidat que depuis quelques semaines. Vous allez me dire, ça, ce sont des hommes politiques. Oui, sauf que le CSA ajoute ceci. Dès lors que les propos de la personne font réagir et sont au centre du débat politique, on peut considérer qu'il faut compter son temps de parole. Autre exemple, qu'il y a des campagnes d'affichage, des affiches, des groupes de soutien, la démarche des 500 signatures, ou encore que la personne en question est testée dans des enquêtes d'opinion, ce qui est le cas d'Éric Zemmour, ce qui explique pourquoi le CSA a décidé, en tout cas conformément à ses statuts, de prendre en compte ce temps de parole.
Et ben c'est pourquoi je vous avais demandé de rester pendant quelques secondes à mon avis, mais c'est utile au débat. Oui, François, je vous en prie.
Vous parliez des éditorialistes. Oui. Pour moi, les éditorialistes, quelle que soit leur appétence politique, ce sont des journalistes. Et je, moi, crois beaucoup en la liberté de la presse. Et donc, la liberté de la presse, chaque éditorialiste est libre de s'exprimer tel qu'il l'entend. C'est un acteur du monde politique, certes, mais ça n'est pas un candidat dévoilé. Ça veut dire que vous avez normalement un contradicteur. C'est-à-dire que si vous avez
Parfois, je ne les vois pas beaucoup sur les plateaux de télé.
Ah mais je suis d'accord avec vous, mais si on va chercher de l'information partout, vous avez, vous, Pascal, des contradicteurs, j'ai moi, à titre personnel, des contradicteurs, et c'est le principe, la presse doit être libre, elle doit pouvoir s'exprimer, parce qu'elle ne s'engagera pas politiquement, elle s'engage, mais c'est de la liberté de la presse, elle va soutenir un tel ou un tel. Maintenant, Éric Zemmour n'est pas un personnage à part dans le monde politique.
Non, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des organes de régulation, il n'y a pas de CSA pour la presse écrite. Il y en a un pour l'audiovisuel, il n'y en a pas pour la presse écrite. Moi, j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup, parfois trop, d'organisations de ce type, qu'au nom de la liberté de la presse, personne n'est obligé d'écouter M. Zemmour, comme personne n'est obligé d'aller écouter une chaîne qu'il n'a pas envie d'écouter. C'est pas non plus l'ORTF, en l'occurrence CNews, n'est pas unique, il y a 300 chaînes. Donc moi, je suis plutôt pour un système de liberté totale. Il peut avoir une chaîne pour les écologistes, une chaîne pour les communistes, une chaîne pour ceux qui sont réactionnaires, une chaîne pour ceux qui sont conservateurs, que sais-je. Vous voyez, mais...
Bon. Mais ça, ce serait dans un monde parfait, Pascal.
Mais c'est ce qui se passe en presse écrite, hein. En presse écrite, il n'y a pas de CSA, Libération, oui, Figaro,
On connaît aujourd'hui les difficultés de la presse écrite. On connaît les difficultés de la PQR, on connaît les difficultés de la presse écrite à s'exprimer. Une revue de presse n'est pas simple, Pascal.
Moi, j'aime bien, je suis attaché à la liberté d'expression. Mais enfin, il y a débat et c'est pourquoi nous sommes là. Merci Amandine.
Merci à vous.
Donc vous revenez demain ?
Ben oui, demain, 12h30.
De temps en temps, vous reviendrez comme ça dans les auditeurs.
Oui, j'aime
c'est bien.
Écoutez, il n'y a pas de problème.
Il est 13h08, je salue Damien Béchiot et
bonjour,
toute
Pascal.
L'équipe des auditeurs. Il y a Victor, désormais, il y a Philippe, il y a Florence, il y a Olivier qui a passé un week-end absolument magnifique. Il y a Nathan également qui est là aujourd'hui. Et évidemment, nous allons marquer une pause. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
D'alcool.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Éric Zemmour n'aura plus d'émission sur CNews dès ce soir. L'émission Face à l'info sera différente, toujours animée par Christine Kelly. Nous sommes avec Gérard. Bonjour Gérard, qu'en pensez-vous ?
Oui, bonjour Pascal. J'en pense que, écoutez, je sais pas trop quoi en penser dans le sens où ça m'agace plus qu'autre chose, quoi. Parce qu'en fait, finalement, qu'est-ce qu'il cherche à faire? À le faire taire. Ça fait des années qu'ils portent plainte contre lui pour essayer de le faire taire. Ils ont pas réussi puisqu'à chaque fois ils gagnent.
La dernière, il a été condamné à deux reprises.
D'accord. Bon, la dernière, il a été relaxé. Bon, après, avec ce qu'il dit, c'est normal que dans la société dans laquelle on est, on ne peut rien dire. Donc, automatiquement, on ne peut rien dire.
Contrevient pas à la loi, c'est tout.
Mais attendez, Pascal. Bon, après, je ne vais pas vous la faire à vous. Vous le savez, puisque je vous suis, vous pensez à peu près la même chose. Il y a un sens commun. Il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et si on va pas dans le même sens, bon, ben là, du coup, on est ou raciste, ou xénophobe, ou homophobe, ou alors pire, un Hitler ou quoi que ce soit. C'est ce qu'ils veulent faire passer pour Éric Zemmour, alors que lui, il a un discours du RPR, hein. C'est pas Hitler. Hein. Donc en fait, ouais, moi, vous allez me sentir certainement agacé, et je suis agacé, parce que quand j'entends parler de liberté d'expression, etc., et que ça fait 40 ans qu'on nous bastine avec cette Europe, avec l'immigration, avec ci, avec là, Et enfin, il y a quelqu'un qui ose dire ce que tout le monde pense tout bas, et on veut le faire taire. Mais c'est magnifique quand même. Alors oui, je vais pas tomber dans
tout le monde. Si ce que vous dites est vrai, bah, il sera élu président de la République.
Eh bien, je le souhaite, Pascal, parce que vous avez vu les derniers sondages.
On est à peu près à 70%.
Je le pense aussi, mais alors après, je sais pas ce qu'il faut en penser. Qu'est-ce que vous pensez des sondages? On y croit, on n'y croit pas aux sondages, c'est quoi? Parce que quand vous regardez les sondages, à 70%, les Français pensent comme lui.
Mais ça dépend sur quoi, par exemple?
Par exemple, l'Union européenne. Je vous rappelle qu'on était contre la Constitution européenne et que notre cher Nicolas Sarkozy l'a fait passer, contre notre volonté.
En 2005,
par exemple.
Mais c'est un peu plus complet. Mais vous pensez que si vous, demain... C'est-à-dire quoi, contre être contre l'Europe? C'est vous pensez que si demain... On demande aux Français de se prononcer sur l'euro. Vous pensez que les gens vont dire on est contre l'euro et on veut revenir au franc?
Non, mais il ne faut pas tomber dans les caricatures, pas vous, alors... Pascal. Je vous parle de Maastricht. Moi, l'Europe des nations, ça me convient très bien. Voilà, on a des accords, mais on n'est pas obligé de suivre une politique qui vient de l'extérieur. On ne peut pas nous imposer certaines choses. On est quand même un peuple souverain, quoi, jusqu'à preuve du contraire. Donc, toutes ces choses-là, tout ce qu'il dit, par exemple, je vous prends un exemple tout bête.
Un autre exemple.
On prend, en ce qui concerne l'Europe, parce qu'on parle tout le temps d'Éric Zemmour, les prénoms, les cils et là. Bon, moi, je vous parle de l'Europe. Je vous parle de ce qu'on gagne à la fin du mois. EDF, on avait besoin de faire ça? On avait besoin de casser EDF comme on a fait pour faire baisser le coût de l'électricité? Mais c'est pas vrai, puisque finalement l'électricité n'arrête pas de remonter.
Et on
tout
le baisse parce que effectivement c'est une législation européenne où le monopole est interdit. C'est pour ça qu'on a.
Mais on n'en avait pas besoin, nous, Pascal. Oui. On avait, grâce au général, on avait tout ce qu'il faut. Moi, si vous voulez, pour ma génération, j'ai 37 ans. Pour ma génération, Zemmour, c'est notre De Gaulle à nous. Voilà, c'est celui qui va pouvoir redresser la France sur tous les points. Que ça soit sur le point sur le point immigration, sur le point de l'Europe, sur le point de l'industrie, parce que
la dernière fois vous avez voté pour qui ça m'intéresse. Alors, d'où vous venez
D'où je viens? Moi, je suis à la base un Sarkozy. J'ai voté pour Sarkozy.
D'accord.
Et d'ailleurs, je le regrette puisque finalement, en 2008, il a fait passer
En 2012, vous votez pour qui?
J'étais pas là, j'étais au Québec.
D'accord.
Donc du coup, j'ai pas été là.
Donc vous êtes
là,
un mauvais Français parce que vous aviez quand même, vous pouviez voter par correspondance. Donc vous donnez des leçons de maintien à la France, mais vous-même vous ne votez même pas par correspondance. Franchement, c'est pas bien, Gérard.
C'est un coup bas.
C'est pas très bien ce que j'ai fait. C'est pas très
bien. Mais vous avez pas tort.
En 2012 et en 2017, vous votez quoi?
J'étais au Canada, donc j'ai
encore
pas voté.
Ah bon, vous
oui,
votez
oui. Mais non. Si, là je vais voter. J'ai voté pour les dernières.
Donc vous n'avez ni voté en 2012 ni en 2017 pour les présidentielles.
C'est ça. Mais bon,
Vous allez voter Éric Zemmour s'il se présente. Et s'il se présente
bien
pas,
sûr.
Vous votez pour qui? Que je comprenne
pas. Patriote, Marine quand même. Il faut pas exagérer. J'attends Marion. On D'accord. attend Marion, mais elle est pas encore là. Elle laisse la place à sa tante, ce qui est tout à fait honorable. Mais en attendant, on reste patriote.
Bien, Gérard. Je pense qu'on aura compris. Vous êtes le seul Gérard que je connaisse qui a 37 ans. Généralement, ils ont 30 ans de plus.
Et voyez, et pourtant, mes grands-parents étaient des Espagnols. Ouais. Et je m'appelle Gérard. Un bon français. Et du coup, je me sens français.
Mais
il n'y a pas de souci.
Mais j'en suis convaincu, cher
non,
Gérard.
Non, mais vous voyez très bien ce que je veux dire.
Ça m'a fait plaisir de vous parler, en tout cas.
Je vous regarde tous les soirs avec ma femme. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler.
Elle s'appelle comment, votre femme?
Myriam, elle vous embrasse.
Eh bien, écoutez, embrassez Gérard et Myriam, alors c'est
bien. C'est très bien.
Vous êtes sympathique, en tout cas, et c'est agréable d'échanger avec vous.
On vous aime beaucoup, c'est très cool. Et vous passez le bonjour à Yvan Rieufol et à toute l'équipe de notre part. Et à Jérôme aussi, vous nous faites bien rire le soir.
Bon, en tout cas, on est sur RTL, si vous me permettez. Donc, vous pouvez aussi écouter l'ami Éric Brunet le soir.
Mais bien sûr.
Et vous pouvez écouter Cyprien Sini. Vous pouvez écouter...
J'ai écouté Yves Calvi et tout. Mais maintenant, j'avoue que
et
je suis désolé.
Et Julien Célier, l'excellent Julien
Célier. Je suis Dimitri maintenant. Je suis désolé.
On est sur RTL ici. Donc, écoutez Julien Célier. Avant, il était au matin et maintenant il se réveille à l'heure à laquelle il se couchait avant, non? C'est ça? Je ne sais pas.
Sûrement.
Non, en tout cas, il est là le soir. Bon, merci beaucoup Gérard. Il est parti. Et on continue sur Zemmour parce que ça fait réagir. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Florent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est le sujet qui vous fait réagir au 32-10. Éric Zemmour n'aura plus d'émission sur CNews. La chaîne l'a annoncé ce matin. Bien qu'il ne soit pas déclaré candidat à la présidentielle, son temps de parole est désormais décompté.
On rappelle les faits. Mercredi dernier, le CSA demande aux médias de décompter le temps de parole du polémiste. En tout cas, ses interventions sur la politique nationale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel juge alors qu'Éric Zemmour peut être considéré comme un acteur du débat politique, même si il n'est pas encore officiellement candidat.
Et le polémiste a réagi rapidement. Il était votre invité, Pascal, sur CNews dans l'heure des pros.
Je pense que c'était inévitable. Je pense que le CSA l'a fait exprès, l'a fait volontairement. Et après mûre réflexion pendant le week-end, on a bien compris que c'était la seule solution raisonnable. Vous savez, quand on ne peut pas résister, il faut rompre et résister ailleurs.
Qu'en pensez-vous? Éric Zemmour dérange-t-il? Vous pouvez réagir dès maintenant au standard. Éric Zemmour sera l'invité d'Alba Ventura demain matin sur RTL à 7h40.
Et ça sera passionnant de l'écouter. Aurore est avec nous. Aurore est étudiante à Sciences Po Paris. Bonjour Aurore.
Bonjour Monsieur Pro.
Quand vous m'appelez monsieur, je prends 20 ans d'un coup. Je vous assure, à chaque fois, je suis surpris.
C'est pas le but.
Mais c'est pas
c'est
grave.
Pas le but. Mais
bon. Aurore, votre sentiment?
Moi, je pense sincèrement que le CSA a fait un choix qui est légitime, puisque effectivement, Monsieur Zemmour a une place dans le débat politique et public qui est vraiment omniprésent. Je dirais même qu'il a quelque part une certaine hégémonie quand on voit les audiences qu'il fait. Et quelque part, c'était un choix stratégique aussi de sa part de ne pas se présenter comme candidat, certainement, pour peut-être avoir davantage de temps de parole. Je ne sais pas, je ne suis pas à la tête de M. Zemmour, bien évidemment. Mais le fait est que c'est au CSA, effectivement, de réaliser des décomptes pour faire qu'il y ait, pour faire respecter la règle d'égalité et d'équité, notamment lors des pour les élections présidentielles.
Vous dites omniprésent et je suis étonné. Éric Zemmour intervient du lundi au jeudi dans une émission sur CNews où il est effectivement avec d'autres collaborateurs et d'autres journalistes et dans une émission qui dure une heure et il doit faire deux fois 10 minutes d'édito, de tuto. Voilà.
Et pourtant, quand on voit les audiences qu'il fait. C'est énorme.
Ouais, mais ça, je suis d'accord. Quoi, c'est énorme. C'est n'y peut rien, si j'ose dire. C'est parce que les gens ont envie de l'écouter.
Bon. Bien entendu.
Mais vous dites omniprésent. Il n'est pas sur d'autres chaînes. Et je rappelle quand même quelque chose. C'est ça qui m'étonne toujours. C'est que c'est pas l'ORTF aujourd'hui, quand même, la France. C'est-à-dire que dans le temps, t'avais qu'une chaîne de télévision. Donc évidemment, celui qui parlait avait un poids considérable. Mais je répète, personne n'est obligé d'écouter Éric Zemmour. Enfin, c'est quand même un argument qui s'entend, ça, Aurore. Personne n'est obligé d'écouter un homme politique ou un journaliste politique qu'il n'aime pas ou un domaine qu'il n'aime pas. Personne n'est obligé d'écouter un match de football s'il n'a pas envie de voir du foot.
Dans ces cas-là, on remet en cause toutes les règles de pluralisme politique que le CSA essaie de faire respecter.
Mais pourquoi vous dites ça? C'est ça que je saisis pas. Alors, faudrait un CSA pour la presse écrite aussi? Pourquoi il n'y en a que dans l'audiovisuel, hein, c'est ça? Pourquoi y a-t-il en France tellement d'organismes de contrôle? Moi, c'est vrai que je suis plutôt libéral sur pas mal de choses. Moins il y a d'État, je ne veux pas dire mieux on se porte. Mais pourquoi vouloir tout réglementer, tout régimenter?
Monsieur Pro, si Éric Zemmour, il risque certainement de se présenter à la présidentielle, s'il devient effectivement candidat, il aurait eu une part d'antenne qui est bien supérieure à ce que les autres candidats de différents partis.
Mais le président Macron alors? Quand il va à Marseille, le président Macron, vous faites quoi?
Écoutez,
il est en campagne ou il est comme président?
Il y a eu une réforme du CSA en 2018 qui effectivement donnait un temps de parole, si je ne me trompe pas, de un tiers, justement pour tout ce qui est gouvernement, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça reste.
Mais mon exemple, quand l'autre jour il est à Marseille, il est en campagne électorale, Emmanuel Macron, ou il est en tant que président de la République?
Eh bien écoutez, justement, le CSA aussi, c'est pour asseoir sa légitimité, il devrait aussi faire appliquer ce temps de parole à tout le monde. C'est aussi ça, pour effectivement ne pas avoir des reproches et des soupçons par rapport à leur partialité, c'est aussi à eux de faire le décompte à pour tous les candidats.
Bon, en tout cas, Aurore, je vous félicite parce que vous avez 18 ans et vous faites Sciences Po. Vous êtes armée, manifestement, pour le débat, armée pour la discussion. Vous avez d'excellents arguments. Donc, je vous félicite pour cela et c'est le plus important. Vous êtes en cours, là, déjà?
Oui, j'ai repris il y a 15 jours.
Oui, les cours ont repris à Sciences Po Paris. Et alors, vous sentez comment auprès des jeunes, par exemple, une candidature Zemmour à Sciences Po, elle fait du monde, si j'ose dire, ou au contraire, elle est rejetée?
Elle fait débat, je dirais.
Ah bah alors, c'est un peu comme partout, alors.
Voilà, c'est comme partout. Sciences Po n'est
pas... Mais Zemmour, il aurait le droit de venir à Sciences Po, par exemple, à votre avis, s'il voulait faire une conférence?
Écoutez, je fais partie d'une association qui s'appelle Sciences Po TV, justement, et qui éventuellement avait proposé à M. Zemmour, et quant à la proposition même d'avoir Jean-Luc Mélenchon, etc., de venir faire le débat à Sciences Po. Donc l'invitation a été lancée. Je ne sais pas si cela pourrait se faire, mais en tout cas, je pense qu'il y aurait, il pourrait y avoir négociation.
Merci Aurore, hein, et vraiment bravo parce que vous êtes très brillante. Vous avez 18 ans, donc c'est pas facile comme ça de s'exprimer à la radio.
Je suis ravie de pouvoir le faire à votre peine et avec vous, Monsieur Pro.
Bah non, mais vous êtes gentil, mais quand vous m'appelez Monsieur, je vous assure, j'ai l'impression d'être vraiment un très vieux Monsieur pour le coup. Merci beaucoup.
Vous appelez Pascal, merci.
Vous,
Monsieur Pascal.
Monsieur. Personne m'appelle jamais Monsieur. Ouais. Merci Aurore en tout cas.
Merci.
C'était un plaisir. Bonjour. Damien, qu'est-ce qu'on fait là? On marque une pause?
On peut marquer une pause, Pascal.
Eh ben écoutez, vous pouvez nous appeler. Alors il y a d'autres sujets, hein, bien évidemment. Le pass sanitaire, ça c'est très très intéressant parce que finalement c'est passé comme une lettre à la poste. Et Sophie Orange a été très efficace tout à l'heure, une démonstration implacable. C'est-à-dire que l'épidémie en France baisse grâce au pass sanitaire parce qu'on met ensemble dans des lieux clos des gens qui sont vaccinés. Bah écoutez, c'est QFD, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est un fait. La maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, qui annonce sa candidature, donc ça, vous pourrez réagir là-dessus. Les propose-t-il aux forces de l'ordre lors de la fête de l'humanité? Est-ce que vous connaissez, vous qui êtes jeune, Damien, Sosomanes?
Pas du tout.
Moi je le connaissais pas non plus, Sosomanes. J'ai l'impression que les rappeurs, à chaque fois, il y a des noms de rappeurs que je connais pas. Sosomanes, eh bien, il a fait chanter tout le monde déteste la police. Ça sera intéressant de savoir. Gérald Darmanin, je crois, sera sur l'antenne d'RTL mercredi. J'imagine qu'on lui demandera ce qu'il pense de Sosomanes. Et puis Triane, c'était la fin de Triane ce week-end. Le rock breton, c'est pas du rock d'ailleurs, vraiment breton, mais la jument de Michao et son petit poulain.
On l'écoutera.
Je peux vous chanter en breton si vous voulez. Zigan, Mae, Zigan, Bombay. Ça, c'est le début, par exemple. C'est du breton.
Ah, d'accord.
Ah, ben, je parle le breton couramment.
Bravo, monsieur.
À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Moribonds sont les rois, Henri Pailleux. Si leurs prisons
Triane,
sont des cas,
si mort à mort. Si vous étiez à la Cité des Congrès samedi soir pour le dernier concert de Triane, qui a duré 3 heures et 4 appels, appelez-nous Triane. Vous savez ce que ça veut dire, Triane? Les trois gens. Triane, parce qu'ils s'appellent tous les trois gens. Et donc c'est formidable, c'est du rock.
On pourra écouter la jument de Michaud.
Et son petit poulain.
Bah oui,
la jument de Michaud. On mange et tout le foin.
On pourra danser dans le studio.
Mais bien sûr. Et nous nous tiendrons par le petit doigt. Bien sûr, c'est un fest-noz, bien évidemment. Appelez-nous si vous étiez à la Cité des Congrès. Ça serait intéressant.
On parle beaucoup d'Éric Zemmour depuis 13h. Sera-t-il candidat ou non? Mais une autre question se pose. À l'Elysée, si l'une d'elles était élue présidente de la République en 2022, la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé hier sa candidature à la présidentielle.
J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, s'est lancée aussi dans la course.
Je suis candidate à la présidence de la République pour restaurer la fierté française.
Sur la ligne de départ également, Marine Le Pen.
Les raisons profondes de cette décision d'être candidate, vous l'avez compris, ne font planer aucun doute sur ma volonté de victoire.
Et si c'était une femme l'an prochain à l'Élysée, les mentalités ont-elles évolué? Nous attendons vos avis dès maintenant au 3210 3210.
Éric Zemmour, suite et peut-être pas fin. Nous sommes avec Nathalie, qui est directrice de la communication. Bonjour Nathalie.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous.
Je vous remercie de me donner la parole.
Je vous en prie Nathalie.
J'étais intervenue peu avant la pandémie, au début de la pandémie, justement sur cette question de la liberté de la presse et de la liberté d'expression dans le pays.
Et la question, c'était, est-ce qu'il y avait plus de liberté d'expression à l'époque qu'aujourd'hui ? Manifestement, on voit bien qu'il y a un problème dans l'évolution de la démocratie dans notre pays, avec une liberté d'expression de la presse et une liberté d'expression de manière générale qui pose vraiment problème. Parce que là, la ficelle est grosse. Hein, faut pas avoir fait des hautes études politiques pour comprendre que cette action vis-à-vis d'Éric Zemmour, à l'encontre d'Éric Zemmour, est évidemment éminemment politique à un moment donné où, comme par hasard, et d'ailleurs je trouve que ça reboucle assez bien avec votre jingle « Où sont les femmes ?» et avec ces femmes qui tout d'un coup parlent, à l'exception de Marine Le Pen, découvrent la culture française. Hein, même Emmanuel Macron, il découvre la culture française lors de son hommage notamment à Jean-Paul Belmondo.
Oh, il la découvre clairement, pas quand même. Ça
non, on veut faire taire Éric Zemmour. Si elle est grosse, c'est évident.
Oui, mais c'est souvent contre-productif. C'est ça qui est drôle. C'est même pas efficace. Tu t'aperçois que très souvent... Lorsqu'on veut faire taire quelqu'un, comme vous le dites, en tout cas lorsqu'on le désigne comme victime, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire.
Alors effectivement, ça c'est la bonne nouvelle, parce que heureusement, dans toute mauvaise nouvelle, il y a des bonnes nouvelles. C'est que toute chose se transforme, n'est-ce pas, comme dirait Lavoisier. Et effectivement, le débat va évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on empêche Éric Zemmour de s'exprimer finalement librement, comme vous le dites fort justement, hein, sur une chaîne à un moment donné, bon, c'est une heure par jour pendant quatre jours, eh bien, il s'exprimera ailleurs. Tout simplement.
Ah non, mais il n'aura pas le droit de s'exprimer ailleurs. Mais il va peut-être monter sa chaîne YouTube, disait-il ce matin.
Ah ben, je pense qu'il va le faire. Et j'espère que Marc Menant et Dimitri vont continuer donc avec brio à développer des idées, parce que effectivement cette émission intéresse beaucoup de gens, parce que j'entendais votre précédente auditrice qui disait « Ah oui, mais bon, il faut lui décompter son temps, pourquoi il a autant d'audience ?» Il fait beaucoup d'audience tout simplement parce qu'il est brillant.
Oui, en tout cas, il a son public, mais je veux dire, il pourrait aussi avoir un homme de gauche ou même très à gauche qui, de la même manière, pourrait avoir un temps d'antenne comparable. Moi, je le disais tout à l'heure, personne ne met un pistolet sur la tempe de personne pour aller regarder un programme de télévision. On n'est plus dans les années 60 où il n'y avait qu'une télé. À partir du moment où il y en a 300, effectivement, je partage moins la position du CSA. Mais bon, pour tout dire, je suis aussi un peu jugé parti puisque je suis sur CNews. Peut-être que si je ne l'étais pas, je verrais les choses différemment. Pourquoi pas ? Merci en tout cas, Nathalie. Merci.
Je vous remercie.
Merci de ce témoignage. Didier est là. Didier, oh, la tranche sur mer, Didier, en Loire-Atlantique.
Oui, tout à fait.
Il fait beau ?
Oh, il fait un temps magnifique, un petit peu laiteux, le ciel, mais très très beau.
Mais c'est l'arrière-saison est belle, comme on dit.
Ah oui, et il y a un monde fou, là. On voit que le Covid a drainé beaucoup de gens. Les gens ont envie de profiter maintenant.
Mais comment ça, il y a du monde? Les gens, ils sont en vacances ce lundi, à la tranche?
Il y a beaucoup de retraités, là c'est une folie. Hein.
Mais il n'y a pas plus de monde que durant cet été. Il y a plus de monde le 13 septembre que le 13 août.
C'était le 5 septembre qu'il y avait pratiquement plus de monde qu'au mois de juillet. J'ai rarement vu ça.
Ah oui, c'est combien d'habitants la tranche ?
Oh, en temps normal, je ne sais pas, peut-être 2000, quelque chose comme ça. Et là, en plein été, ça doit être quelque chose.
Et vous vivez à la tranche tout le temps ?
Non, c'est une résidence secondaire.
Bon, ça n'a pas de rapport avec Éric Zemmour, bien évidemment. Que voulez-vous nous dire ?
Alors, justement, c'est ce que j'aime dans vos émissions, c'est la diversité. On vient de parler de Trigane, on parle de la tranche. Vous n'êtes pas bloqué et arqué sur des choses comme ça. Alors, ce que je veux dire sur Zemmour, c'est que c'est positivement scandaleux. Ça me fait penser à la chanson de Guy Béard, « Le premier qui dit la vérité, il sera exécuté ». C'est exactement ça. Parce que, en fait, il s'agit uniquement d'une histoire politique. Tant que Zemmour était dans les profondeurs du classement au niveau pourcentage d'élections, ça allait. Mais là, on voit qu'il commence à monter. Donc, en fait, il y a deux partis qui s'y attaquent frontalement. C'est le Front National, évidemment, parce que Mme Le Pen voit bien qu'il va lui manger 6 ou 7% des voix. Et surtout, La République En Marche, qui, du coup, se dit « Mais si Mme Le Pen baisse de 6%, je vais me retrouver devant Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Et le dernier sondage donne, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, Xavier Bertrand vainqueur avec 53%. Donc, d'où la montée au créneau de La République En Marche qui a imposé au CSA l'éviction de Zemmour.
C'est l'analyse que vous faites en tout cas. Sans preuve. Sans preuve, forcément.
Bien sûr, mais comme disait la dame précédente, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po. Tiens, justement, Sciences Po, qui parlait d'hégémonie. On ne peut pas parler d'hégémonie, même si CNews est en tête des chaînes d'infos, c'est quand même pas une hégémonie.
Alors, j'aimerais qu'on soit toujours en tête, mais on ne l'est pas tout à fait. On est au coude à coude, souvent, mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que BFM est devant, encore aujourd'hui.
Oui, mais vous avez, vous, un avantage incontestable, c'est qu'on voit de tout chez vous. On voit du Geoffrin.
Oui, mais je voudrais pas qu'on parle de CNews, là, on est sur RTL. Non, je suis un peu gêné à chaque fois, parce que
vous voyez, bien sûr, je vous comprends.
Là, on est vraiment sur RTL. En revanche, je suis encore plus gêné, parce que j'ai dit que la tranche était en Loire-Atlantique, et c'est en Vendée, la tranche. Allô ?
Oui, c'est en Vendée.
Oui, mais j'avais dit en Loire-Atlantique tout à l'heure, je suis vraiment... c'est dans l'arrondissement des Sables-d'Olonne, je sais pas pourquoi j'ai dit la Loire-Atlantique.
Ah, c'est parce que vous voyiez déjà dans la mer. Oui, mais quant à Éric Zemmour, en fait, il ne se contente, c'est un polémiste, c'est un éditorialiste, il se contente de dire la vérité, je ne vois pas à quel moment...
Il dit la vôtre, en tout cas.
Non, écoutez, quand il parle de... Par exemple, parlons de l'INSEE. L'INSEE sur les chiffres de la population en Seine-Saint-Denis. Il se contente de révéler une information qui est passée pratiquement inaperçue sur les chaînes. Parce que là, le problème, c'est qu'on a ouvert une boîte à Pandore. Là. Ça sera à qui le tour, après ? Pourquoi pas vous, Pascal, admettons. Je vous dis pourquoi pas vous, parce que...
Si vous pouviez ne pas donner ce genre d'idée au CSA, ça m'arrangerait, cher Didier. Je n'ai pas prévu de me présenter à la présidence de la République.
Voilà, mais j'en serais désolé, mais imaginez vous dites que Nantes est, par exemple, mal équipée en caméra.
Oui.
De là, on peut se dire, ah ben tiens, à la retraite, il se présente. Peut-être en tant que maire.
Non.
Faut qu'on l'arrête. Non, mais je veux dire, c'est une boîte à Pandore.
Après, d'abord, je suis loin de la retraite, je vous remercie. Également.
J'ai entendu votre âge l'autre jour. Hein. Très heureux parce que.
Donc, Didier. J'irai à la tranche sur mer, voilà. J'irai, à un moment, j'ai une propension à ne rien faire et je serai très bien avec vous sur le sable, à rien faire, à me balader. Tant mieux. Et je vous écouterai. J'écouterai Damien Béchiot.
Merci Pascal.
Pascal,
je peux encore ajouter un mot.
Oui,
vous voulez, ce matin, j'ai entendu Prisca Thévenot, qui est une dame de La République En Marche. Elle a dit d'Éric Zemmour, écoutez, s'il n'est pas content, puisqu'il se plaint sans arrêt, il faut qu'il reparte chez lui. Et en plus, il n'a pas un prénom qui est français, c'est un prénom. Éric est un prénom d'origine étrangère. Vous vous rendez compte où on en est rendu ?
Oui, ça, c'est pas terrible. Bon, Didier, merci. Bonne journée à la tranche sur mer. Et la tranche sur mer, c'est pas loin de Nantes. Et Nantes, c'est là où il y a eu Trianne ce week-end. Donc, si vous étiez à la Cité des Congrès.
Vous chantez de mieux en mieux, Pascal.
De mieux en mieux. Non, mais Trianne, c'est 50 ans, Trianne. Vous vous rendez compte ? C'est assez gay.
Ah bah oui.
Il n'y a pas de musique en côté.
Ça va arriver après la musique.
Ah bon,
on peut peut-être faire Olivier avec quelques messages sur Facebook, Pascal.
Magnifique. Monsieur Olivier.
Oui, bonjour Pascal.
Je vous ai vu d'ailleurs samedi soir dans un fest-nose.
Ah bon ?
Habillé avec la coiffe bretonne.
Eh oui, c'était moi.
Très bien.
Ah, vous m'avez dit que ma coiffure n'allait pas, donc j'ai changé.
Et vous dansiez avec quelques sabots de bois pour honorer la Bretagne.
Exactement. Et petite question, est-ce que je vais pouvoir venir danser avec Laurent et vous sur la jument de Michao en studio ou pas?
Mais
du tout?
Bien évidemment, oui. Cher ami.
On a hâte. Bon, bah super, merci beaucoup. Bon, alors sur nos réseaux sociaux, Jean-Luc s'interroge sur notre page Facebook, même les anciens
s'interroge,
membres.
C'est son nom?
Pardon?
C'est Monsieur s'interroge.
Alors c'est Monsieur s'interroge, exactement. Bon, alors allez, j'y vais Pascal cette fois-ci. Donc il s'interroge sur notre page Facebook.
Je n'ai pas compris. Bah oui, je crois que c'était Jean-Luc qui s'interroge.
Non, pas tout à fait, pas tout à fait.
Allez-y.
Donc même les anciens membres du CSA n'ont pas compris cette décision par rapport à Éric Zemmour. Pardon. Donc comment est-ce possible? Ingrid, dans le même sens, nous écrit, c'est la définition même de la censure. À l'inverse, Anne nous dit, il était temps de le retirer. Il est en campagne, ça crève les yeux. Donc action, réaction. Et on termine avec William. On peut empêcher les gens de s'exprimer, mais on ne pourra rien faire contre le verdict des urnes.
On va marquer une pause et on va changer de sujet. Vous avez entendu dans le journal cette affaire avec Patrick Hisson, absolument incroyable, où un enfant a été ramené chez sa mère parce que sa mère n'avait pas payé la cantine. Il a 7 ans. Et c'est un policier qui l'a ramené. C'est quand même très étrange. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Monsieur Tessier.
C'est une histoire qui va vous faire réagir. Un élève de 7 ans, raccompagné chez lui par un policier. La raison, sa mère ne payait pas la cantine. Nous sommes à Saint-Médard de Guizière en Gironde. Écoutez la mère de l'enfant au micro de Philippe de Maria.
Suite à mon impayé de cantine, la mairesse a pris l'initiative de faire accompagner mon fils à l'heure de la restauration scolaire à mon domicile par le policier municipal. Devant tout le monde, devant tous les élèves, devant tous les parents. Présent, bien sûr. Ça m'a fait beaucoup de mal qu'on se prenne à lui, un enfant de 7 ans, pour justement m'atteindre à moi.
Le montant de l'impayé, 900 euros. La maire de la commune affirme avoir épuisé tous les recours pour que la note soit réglée.
Devant l'attitude de la maman, je n'avais pas d'autre solution pour réussir à lui faire entendre raison.
Raccompagner un enfant de 7 ans par la police, cette histoire vous choque-t-elle? 3210, 3210.
Je trouve qu'il y a un côté Victor Hugo là-dedans. J'entends effectivement la voix de cette femme. Enfin, on ne fait pas ça, me semble-t-il, à un enfant de 7 ans qui, toute sa vie, se souviendra de cette humiliation. Nous sommes avec Marilyn. Bonjour Marilyn, qui est assistante personnelle. Bonjour.
Comment allez-vous?
Mais écoutez, je vais très bien. Et vous?
Très bien, merci.
Vous avez passé un bon week-end?
Un agréable week-end, merci.
Qu'est-ce que vous avez fait?
Ce week-end, j'ai profité de mes enfants, j'ai profité de mon jardin, j'ai profité de mes amis,
les devoirs, bien profité, la reprise.
Oui.
Vous avez combien d'enfants?
3 enfants.
Quel âge ils ont?
Alors, j'ai une grande de 20 ans, un cadet de 17 et la petite dernière va avoir 12 ans.
D'accord. Bon, bah écoutez, c'est bien. Et évidemment, vous êtes choquée par cette histoire qui est tellement incroyable que rapportait Philippe de Maria ce matin?
Je suis assez choquée, oui, effectivement, parce que c'est un petit bout de 7 ans, donc c'est quand même assez hard. Je pense qu'on a d'autres moyens à faire comprendre auprès de la maman. Vous imaginez, on est dans une société aujourd'hui où les jeunes ne vivent que par le regard des autres. On vient chercher à l'école, devant ses copains, ses copines, devant les parents. C'est un petit bout de 7 ans. Je suis assez... franchement, je suis choquée. C'est, peut-être qu'il aurait mieux valu aller voir la maman sur son lieu de travail, si la mère voulait marquer le coup, ou trouver d'autres solutions pour l'impayé. Mais bon, après, on ne connaît pas le dossier de la maman. C'est juste que moi, je pense à l'enfant. Et j'imagine que ça peut être assez traumatisant. Enfin, j'imagine même pas le petit bout en classe où on vient le chercher, on lui dit « Ah non, tu manges pas la cantine, tu repars avec les policiers, tu rentres chez toi ». Il y a d'autres méthodes. On est un peu, enfin, on est dans un monde à l'envers. C'est vraiment se taper la tête contre les murs.
Mais c'est vrai que c'est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que parfois, lorsqu'on est aux responsabilités, on perd peut-être le sens... le plus simple du sentiment ou pour cet enfant. Je suis étonné. Je suis étonné, Marilyn. Qu'est-ce qu'il nous fallait faire pour la mère, la mairesse de cette petite ville, de cette petite bourgade Saint-Médard de Guizière en Gironde?
Je ne sais pas, parce que c'est une position délicate. J'imagine, apparemment, j'ai cru comprendre qu'il y avait un impayé de 900 euros. Et d'après les commentaires qu'il y avait, elle avait pas mal de fois relancé la maman. Après, on ne connaît
mais
pas.
Sans doute,
Mais alors de là, aller chercher un enfant, enfin j'expliquais tout à l'heure à un de vos collaborateurs, ça me fait penser un peu à nos enfants quand on les dépose nous-mêmes à l'école en retard le matin et que les profs s'en prennent directement aux enfants en leur disant « tu rentres pas en cours, tu prends un billet, tu vas en col » et que les enfants sont là en disant « mais moi j'ai rien fait, c'est pas de ma faute monsieur, enfin, c'est la faute de mes parents, appelez mes parents, voyez avec eux » et que les parents sont en mode « oui bah on t'a ramené à la bourse, c'est pas très grave, hein. J'exagère un peu ». Mais c'est un peu ça, en fait c'est l'interface c'est l'enfant. Et en fait, la facilité, c'est de dire, on va marquer le coup et on va s'en prendre un petit bout de 7 ans. 7 ans.
C'est toujours pareil, les enfants, c'est un tabou. Voilà, c'est un sujet tabou, on ne s'attaque pas aux enfants.
Oui, là c'est un peu dur. Honnêtement, c'est quand même assez dur.
Bon, bah écoutez, merci Marilyn. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi?
Je suis à mon travail, là.
D'accord.
Je prends mon temps de travail.
Vous êtes dans quelle ville?
Je suis à Paris, dans le 8e.
Ah, bah oui. Mais vous avez un jardin à Paris, dans le 8e arrondissement?
Non, j'habite à Nanterre.
Ah, et vous avez un jardin?
Ah oui, j'ai un jardin. J'ai la chance d'avoir un jardin. C'est une chance.
Ah oui, ça, une belle maison à Nanterre.
Aujourd'hui.
Ah oui, ça c'est sûr, un jardin. Bon, il est 13h49. L'ami Jean-Alphonse Richard, lui aussi, bon, il a plus qu'un jardin, lui.
Jardin secret, Pascal, ça va bien.
Ce que j'aime chez Jean-Alphonse Richard, c'est ça, c'est l'esprit. Oui, j'ai un jardin, jardin secret, c'est ça qui est beau.
Et
oui.
Secret.
À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Un élève de 7 ans raccompagné chez lui par un policier parce que sa mère ne payait pas la cantine. Ça s'est passé la semaine dernière à Saint-Médard-de-Guizière en Gironde. Et c'est notre sujet. Christian, bonjour Christian, vous habitez dans le Morbihan.
Bonjour Monsieur Plo, bonjour Monsieur Pascal.
Comment allez-vous?
Oui, j'habite effectivement dans le Morbihan, dans une jolie commune qui s'appelle Ferrel, près de la Roche-Bernard.
Je connais.
Et je vis une retraite heureuse.
Bon, mais ça c'est une bonne chose. Mais en revanche, là où vous m'étonnez, c'est que vous trouvez que c'est une bonne solution d'humilier un enfant de 7 ans.
Non, attendez, faut remettre un petit peu les pendules à l'heure. Hein. Il faut remettre les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'une femme qui a un enfant à la cantine, qui ne paye pas la cantine depuis un bon moment certainement, parce que 800 euros de dette à une cantine, je pense que ça doit représenter quand même pas mal de jours.
D'autant que c'est 900. Bon. Mais l'enfant de 7 ans, il n'est pas responsable.
Non, l'enfant n'est pas responsable.
Bah alors pourquoi l'humilier lui?
Oui, mais attendez, la mère du village a convoqué la mère de cet enfant plusieurs fois.
Mais c'est pas le problème. Mais Christian, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est tout ce que vous direz, je peux l'entendre sur la responsabilité de la mère. Mais l'enfant?
Eh bien, l'enfant, bah, tant pis.
Tant pis.
D'abord, il n'aurait peut-être pas attendu midi.
Vous avez eu des enfants,
peut-être
Christian?
Peut-être que la mère aurait pu se déplacer directement pour venir le chercher. Mais l'enfant n'a plus rien à faire à la cantine à partir du moment où c'est pas payé. Les parents touchent des allocations familiales pour verser de l'argent aux cantines. Si les parents sont pas capables de verser l'argent à la cantine, les allocations familiales ont qu'à retirer l'argent et payer la municipalité et l'enfant ira à la cantine. Voilà.
Ben je vous trouve dur, Christian. Non,
c'est pas dur.
Vous avez eu des enfants, Christian ?
On est dans une société où si on n'est pas un petit peu dur, on n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien. Quand vous voyez la police la nuit qui ramène des gamins de 10 ans, 12 ans à la maison, ils ne sont pas traumatisés. Il n'y a pas de problème.
Christian, vous avez eu des enfants ?
J'ai eu un grand garçon, oui, monsieur Pro.
Bon, et
oui.
Vous avez des petits-enfants ?
Il a un très bon métier et il a été très bien élevé. Je peux vous dire que moi, j'étais un père qui était très juste, mais j'ai toujours payé la cantine de mon fils.
Et vous avez des petits-enfants ?
J'ai 3 petits-enfants qui sont très bien aussi.
Et ils viennent vous voir, ils vous appellent papy ?
Ben bien sûr qu'ils m'appellent, ils me voient, on se téléphone et il n'y a aucun souci.
Et vous êtes comme ça, exigeant de cette manière-là ou intransigeant parfois ?
Je suis exigeant, j'estime. Aujourd'hui on est dans un pays, on relâche tout. Il faut de temps en temps des exigences. Les parents touchent des allocations, c'est clair, il n'y a pas à discuter. Plus, ça a été déjà grandement discuté, les parents touchent des allocations familiales pour élever leurs enfants. Ils touchent des primes de rentrée scolaire, ils touchent tout un tas d'avantages, et c'est tout à fait normal, mais on doit assumer ses enfants. Quand on n'en est pas capable, eh ben on se les fait retirer.
C'est pas le même débat. Moi, je vous dis, c'est le petit enfant de 7 ans qui, toute sa vie, se souviendra de cette humiliation.
Mais non, monsieur Pro. On a bien d'autres occasions dans la vie d'avoir des souvenirs. C'est pas parce qu'une fois un policier est venu le ramener à la maison et peut-être que
la honte à 7 ans, ça peut être aussi un moteur parfois. Hein. C'est le principe de la résilience.
La honte,
on sait
jamais. Il y a bien des raisons, monsieur Pro, pour avoir la honte et pour être embêté.
Bon.
Moi, j'estime que si la municipalité elle a eu la patience d'attendre qu'il y ait 800 euros de dette. J'estime qu'elle a eu déjà une grande
passion. D'autant que c'est 900.
Surtout que la mère ne s'est jamais présentée aux convocations.
J'ai bien compris, Christian. Est-ce que vous écoutez l'heure du crime après les auditeurs ont la parole à 14h30 avec monsieur Jean-Alphonse Richard, Christian?
Non, je vais vous dire non, parce que je fais de la musique.
Oui.
Et en toute honnêteté, non, j'écoute pas ça, malheureusement.
Bon, bah, vous devriez. Mais ça veut dire quoi faire de la musique, Christian?
Je fais de la musique.
Oui, mais vous faites quoi? De l'accordéon? Du piano?
Oui, je joue de l'accordéon diatonique, entre autres, oui. Ben, on est en Bretagne, hein, monsieur Pro.
De l'accordéon, comment vous avez dit?
Diatonique.
Diatonique, oui. Ben, et là, donc, c'est après tous les après-midi?
Oh, bien souvent, oui, l'après-midi ou dans la journée, quand j'ai mon jardin aussi.
Bah écoutez, c'est bien, Christian, vous êtes en pleine forme et vous avez l'énergie. Alors, Jean-Alphonse Richard, du crime.
C'est vrai qu'avec moi, la musique n'adoucit pas les mœurs.
Pourquoi
dans l'heure du crime aujourd'hui, les disparus de Volpénil, en Seine-et-Marne, en 95, toute une famille qui disparaît, père, mère, les deux enfants, 3 ans et 18 mois. Un sort funeste leur a été réservé, mais cette histoire, elle est très très intéressante. Vous parlez souvent avec vos auditeurs des lenteurs de la justice, voire des manquements de la police. C'est une grand-mère qui va mener l'enquête. Elle va mettre un an à pouvoir obtenir gain de cause et afin que sa plainte soit recevable. C'est un combat tout à fait exemplaire, le combat de Mamie Gilberte. On va vous le raconter aujourd'hui, elle sera notre invitée dans l'heure du crime. Et c'est grâce à elle que le mystère a été levé sur cette histoire, qui est une histoire horrible.
Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire. Corps. Vous venez tous les jours à 13h55, alors c'est le principe de l'heure du crime, il y a rarement
Il y a rarement de bonnes nouvelles, mais en l'occurrence...
C'est des histoires absolument incroyables racontent la société.
Certes, mais il y a une morale, et aujourd'hui, la morale, c'est le combat d'une grand-mère, c'est la volonté d'y arriver et de faire triompher la justice dans une enquête auquel personne ne croyait.
Je vous promets un fest-nose, merci Jean-Alphonse, entre 14h et 14h30. Nous serons, je l'espère, en direct d'un Nantais, ou en tout cas d'un spectateur qui était à Nantes samedi soir pour le Triane. C'était la dernière de Triane, 50 ans. Et c'est promis, nous chanterons le breton sur l'antenne d'RTL. Peut-être que Christian Olivier, d'ailleurs, s'il est là, qui parle couramment breton, je le précise, qui s'exprime d'ailleurs très souvent en breton dans l'intimité, viendra nous faire un petit coucou dans le studio. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Il est 14h01. Le rappel des titres avec Sébastien Rouxel.
Son procès s'est ouvert il y a une vingtaine de minutes, 3 ans après le scandale qui a secoué l'Élysée. Alexandre Benalla comparaît à partir de cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien chargé de mission auprès d'Emmanuel Macron est notamment jugé pour des violences lors des manifestations du 1er mai 2018 dans la capitale, mais aussi l'utilisation frauduleuse de passeports diplomatiques. Au procès des attentats du 13 novembre 2015, l'audition des premiers témoins cet après-midi, ceux qui ont remonté la piste du commando djihadiste ces dernières années. Gérald Darmanin lance une procédure de dissolution de la Ligue de Défense Noire Africaine. Le discours de cette structure raciste appelle à la haine et à la discrimination, écrit le ministre de l'Intérieur sur Twitter. Dans son viseur, les tensions à Val-de-Reuil dans l'heure depuis une semaine. Après une bagarre générale entre plusieurs communautés, une centaine de personnes se sont rassemblées devant la mairie samedi dernier à l'appel de l'association. Certaines d'entre elles ont réussi à pénétrer dans l'enceinte et ont enfariné le maire sur le parvis. Le ministre de l'Intérieur, qui était ce matin en déplacement en Isère avec Olivier Véran au lendemain d'un crash d'un hélicoptère de la sécurité civile, 4 personnes ont été blessées, un mécanicien est décédé. Il recevra la Légion d'honneur à titre posthume. Record battu pour Europe Écologie Les Verts. Plus de 120 000 électeurs se sont inscrits à la primaire du parti écologiste. Il n'était que 17 000 il y a 5 ans. À titre de comparaison, le premier tour commence jeudi jusqu'à dimanche. Lui n'est pas encore officiellement candidat à la présidence de la République, mais dès ce soir, Éric Zemmour n'aura plus son émission quotidienne sur CNews. La chaîne d'information en continu l'a annoncé ce matin. Après la décision du CSA, le gendarme de l'audiovisuel considère désormais le polémiste comme un acteur du débat politique national. Son temps de parole doit donc être décompté. Quelques dizaines de Français se trouvent toujours en Afghanistan. Un mois après la prise de pouvoir des talibans, c'est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, qui l'annonce aujourd'hui. Depuis Doha, 47 de nos ressortissants ont été évacués aujourd'hui via le Qatar, justement. Emmanuel Macron recevra ce soir à l'Élysée les médaillés français olympiques et paralympiques, 213 athlètes au total, cérémonie à partir de 18h. Certains, en revanche, manqueront à l'appel. Les volleyeurs sacrés à Tokyo, eux, jouent ce soir leur 8e de finale de l'Euro face à la République tchèque. Coup d'envoi à 10h. La météo demain, des orages dès le début de la journée de la Normandie à la Champagne-Ardenne en descendant vers le Massif central, autour du Golfe du Lion également. Ils vont ensuite se généraliser. Côté température, on aura 14 à 17 degrés demain matin dans la moitié nord, 16 à 22 degrés dans la moitié sud. Et puis dans l'après-midi, on aura 22 à 27 degrés en général, jusqu'à 31 dans le sud. La course du Quintet, c'était à Beaumont-de-Lomagne. Voici l'arrivée provisoire, le 5, le 2, le 10, le 7 et le 14. RTL, il est 14h04 et on vous retrouve, Pascal.
Merci Sébastien.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Et on a dit que nous serons dans quelques secondes avec la maire précisément de Saint-Médard-de-Guizière en Gironde. Mais un dernier appel peut-être avant cela, c'est Fabrice qui est policier. Bonjour Fabrice.
Bonjour Pascal Pro.
Et merci d'être avec nous. Je rappelle pour ceux qui arrivent à l'antenne à l'instant qu'un élève de 7 ans accompagné chez lui par un policier parce que sa mère ne payait pas la cantine. Et ça s'est passé la semaine dernière. Qu'en pensez-vous?
Alors Pascal Pro, si vous me permettez, je vais peut-être vous surprendre, mais je vais rejoindre le témoignage de Christian auparavant et essayer de le compléter avec certains arguments qui me sont propres. C'est-à-dire que médiatiquement, alors bien sûr, je me mets à la place d'un enfant qui peut être traumatisé d'être amené chez lui par un policier. Par contre, je voudrais apporter une précision sur le terme policier. Vous avez les policiers nationaux, vous avez les policiers municipaux, ceux qui sont régis et sous les ordres du ministère de l'Intérieur et ceux dont la police municipale sur lequel le sujet est axé, l'autorité de la mairie. C'est-à-dire que la maire a fait appel à un de ses agents pour aller chercher l'enfant. Mais attention, il faut bien préciser aussi que l'enfant a été raccompagné chez lui par un policier en tenue, certes, mais à aucun moment, et de par le témoignage du policier, parce qu'il est important de le souligner, il ne lui a pas évoqué le fait que c'est parce que sa maman ne payait pas. Et je n'ai pas apporté de jugement sur la maman et sa vie privée. Je le respecte totalement. Par contre, il a été raccompagné comme quoi sa maman ne pouvait pas venir le chercher ni rien. Précisons aussi que la maman ne travaille pas et apparemment va chercher d'autres enfants et fait à manger pour d'autres enfants pendant que depuis 2019, celle-ci n'a pas payé entre guillemets sa dette de 900 euros, comme vous le précisez bien, 900 euros, j'ai l'impression que c'est plus important, et ainsi que l'enfant, que de préciser aussi que l'enfant n'a pas été traumatisé parce qu'on ne lui a pas évoqué les raisons. Il faut aussi préciser que la maman se refusait, d'après des articles qui sont parus, à solder sa dette malgré l'événement. Donc, de quel côté on pointe l'événement médiatiquement? Le traumatisme de l'enfant, un policier sans préciser sa nature, ou quelqu'un... Donc c'est pour ça que je rejoins aussi Christian sur le fait qu'on est responsable de ses enfants, à un moment ou un autre...
Non, mais lui, qu'on soit responsable de ses enfants, il n'y a même pas de souci. Mais que les enfants soient responsables de leurs parents, ce n'est pas la même chose.
Non, l'enfant n'y est pour rien.
Bon, ben alors...
mais si vous voulez, on ne peut
enfin,
pas dire...
Je veux bien qu'il ne soit pas traumatisé, mais il n'est pas idiot, l'enfant. Il allait à la cantine, on lui dit qu'il ne peut pas y rester, on le ramène chez lui. Bon...
Mais donc, pendant deux ans, rien n'a été évoqué sur le fait que sa maman ne payait pas la cantine. On ne lui a pas dit à l'enfant.
Non. Oh, je pense que... Enfin, j'en sais rien. Donc,
pourquoi on lui dit aujourd'hui... Donc, ne faisons pas d'amalgame entre l'autorité...
Je trouve qu'il me semble que... Enfin, vous faites venir un policier pour ça. Il me semble... qu'il y a peut-être d'autres manières de faire que de mettre un enfant...
Pascal Pro, précisons la nature du policier. Le ministère de l'Intérieur ne fait pas partie de nos missions de la police nationale d'aller chercher un enfant pour un problème de mairie, frais de finances de cantine.
Madame
c'est un
le maire
municipal.
Est là, me dit-on. Madame le maire est là, elle va être là dans une seconde. Elle s'appelle Mireille Comte-Jobert, je l'espère en tout cas si la liaison marche, parce qu'elle devait être là et visiblement elle n'est plus là, Fabrice. Moi je suis un poil choqué, voilà. Je suis un poil choqué.
On peut être choqué pour le traumatisme d'un enfant.
Mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Je ne vous dis pas que c'est l'affaire du siècle. Je ne vais pas vous prendre. Comment dire Je ne vais pas batailler pour cela. Je ne vais pas faire de manifestation pour ça. Je vous dis que. Je me mets à la place de cette mère-là, Madame Mireille Comte-Jobert. Si je suis maire de cette petite ville, de ce petit village, je ne suis pas sûr que je ferais ça. Voilà, je pense.
Et pourquoi elle n'a pas répondu aux injonctions de la mairie? Parce que je pense que depuis 2019, sur deux ans, il y a dû avoir des recommandés. Elle ne travaille pas, elle n'est peut-être pas seulement, mais bon.
Mais on ne parle pas. Mais j'entends ce que vous dites. Moi, je vous parle de l'enfant. C'est tout.
Mais l'enfant, on a eu un parallèle la fois dernière, la semaine dernière.
Donc en fait, c'est quoi le message
drogue,
c'est qu'on humilie l'enfant pour que la mère comprenne qu'il faut payer?
Mais à quel moment il a été humilié, Pascal Pro? À quel moment il a été humilié? À quel moment on peut se permettre de dire qu'il a été humilié?
Ah bah, est-ce qu'on a le témoignage de l'enfant ? Non. Est-ce que ça lui a été évoqué par le policier municipal ? Non plus, monsieur Pascal Praud. Rien ne lui a été dit que sa maman ne payait pas la cantine.
Bah, écoutez,
On ne peut pas dire du faux non plus.
Je trouve que c'est une drôle de société quand on commence à accompagner les enfants de 7 ans.
Il y a eu un parallèle avec le trafic de drogue et une maman expulsée la semaine dernière. Hein. Bah oui, bah,
non, mais là, ça n'a rien à voir. Là, ça n'a rien à voir.
C'est un
homme qui est majeur, qui a 20 ans, et la mère est expulsée parce qu'il fait précisément du trafic quasiment dans l'appartement, dans la cage d'immeuble, et que dans le règlement intérieur, celui qui est propriétaire de l'appartement doit veiller à ce que ça ne se fasse pas. Ça n'a rien à voir.
Bah, il y a toujours un parallèle de dire on met un policier entre les deux, le traumatisme de l'enfant. Par contre, il faut voir
mais
aussi.
Il a 20 ans, l'autre, il s'est appris.
Oui, mais à 7 ans,
il a un enfant.
Qui a recueilli le témoignage de l'enfant
vous d'avoir été traumatisé?
Pourquoi on doit dire
je vais pas le faire témoigner, l'enfant de 7 ans. Ça, je vais pas lui demander, ta maman
évoqué.
Paye pas. Je vais pas
ça
en
n'a
plus
pas été
rajouter.
Évoqué auprès de l'enfant. Ça n'a pas été évoqué auprès de l'enfant, comme quoi sa maman ne payait pas ses dettes, même si je ne dois pas la juger. Mais ça ne lui a pas été évoqué à l'enfant. Donc,
Fabrice,
je pense qu'on surenchérit
que...
un petit peu la situation.
Fabrice, vous savez, c'est pour ça que les gens parlent. Hein. Souvent, c'est parce qu'ils sont pas tout à fait d'accord. Hein. Moi, j'entends vos arguments, je les partage pas tout à fait, mais c'est pour ça que nous faisons cette émission. Les auditeurs ont la parole. Donc, merci Fabrice.
Mais c'est moi qui vous remercie,
et
Pascal.
Vous aimez la Bretagne ?
Ouais, mais vous savez, moi, dans mon commissariat, quand j'étais en région parisienne, j'avais des sudistes, des bretons, et toutes mes spécialités culinaires. Je veux dire, et on s'entendait super bien. On était tous des déracinés. Et je peux vous assurer qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu plus local. Et c'est ça que je regrette, d'être à Paris et de rencontrer tous les collègues qui viennent de Bretagne, de Marseille, du Nord. C'était merveilleux, mais c'était une autre police aussi, ça.
Bon, bah en tout cas, on pourra parler et chanter avec les Triades. La jument de Michaud, ce sera pour le retour. La jument de Michaud et son petit poulain. On mangeait tout le foin, on courait dans la prairie.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RTL.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.com. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et c'est dans 9 ans, je m'en irai. La jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
L'hiver viendra. La jument de Michaud, elle
magnifique.
S'en rebondira.
Alors ça, faut pas chanter ça à 5h du matin. Après avoir bu du chouchen, ça c'est un truc qui est redoutable. Appelez-nous si vous étiez pour la dernière de la jument de Michaud, les Triades. Anne Hidalgo, présidente de la République, est-ce possible ? Est-ce que ça vous plairait ? Si elle est présidente de la République, elle ne sera plus maire de Paris, peut-être. Donc,
c'est même certain.
Donc peut-être que des esprits malfaisants vont voter pour elle, président de la République, pour qu'elle ne soit plus maire de Paris. Peut-être. Je dis ça avec un peu de distance et de dérision, bien évidemment. Bonjour Didier.
Bonjour Pascal. Bah écoutez, moi je t'en fais rire, mais non, Pascal, faut pas espérer. Je pense que Madame Hidalgo et ainsi que Madame Pécresse, je pense qu'ils n'ont pas un niveau aujourd'hui pour être présidente de la République.
Oui, mais qui a un niveau aujourd'hui, comme vous dites ?
Alors, je vais vous dire, il y en a une qui est dans l'ombre.
Oui.
Et j'ai écouté parler chez Bourdin l'autre jour. C'est Rachida Dati. Elle a quand même un niveau de magistrat. Elle sait ce que c'est que la France.
Donc, vous n'êtes pas fan d'Anne Hidalgo. Mais vous êtes parisien vous-même ?
Alors, moi, je ne suis pas parisien, je lis tous les jours dans Paris parce que moi, j'ai une entreprise de traiteurs et on lit des brasseries, etc. Et je peux vous assurer que depuis un moment, on fait à peu près 100 km de plus tous les jours dans Paris parce que c'est fermé.
C'est l'enfer. Non, mais c'est l'enfer. Mais comme ça intéresse que les Parisiens, je ne veux pas en parler trop. Mais en revanche, est-ce qu'une femme présidente de la République, ça vous plairait ?
Non, moi ça me plaît pas du tout.
Mais pourquoi ?
Non, parce que.
Mais vous dites non, mais vous êtes un macho, vous êtes un homme d'un. Vous êtes OK boomer !
Non, Pascal, je vais vous dire sincèrement. Moi, pour moi.
Une femme, c'est pas fait pour être présidente ?
Non, Hidalgo, non. Par contre, Rachida.
Non, mais une femme, j'ai dit. Ah, j'ai pas dit Anne Hidalgo. Est-ce qu'une femme, vous seriez partisan ?
Ah oui !
Ah, pardonnez-moi.
Je serais pour, mais par contre, je voudrais. Comment elle s'appelle, Madame Rachida Dati.
Oui,
parce qu'elle, elle est très bien. Elle tient la route. que ces gens-là ne tiennent pas la route.
Et même Rachida, c'est encore mieux. Bon, non, mais vous n'êtes pas, j'avais cru que vous étiez misogyne, mais pas du tout.
Ah non, pas du tout. Non.
J'ai bien compris que vous préférez Rachida Dati.
Ah oui, non, ah ben bien sûr, parce que là.
Mais en même temps, là, on parle d'Anne Hidalgo, c'est ça qui m'ennuie un peu.
Mais je peux vous assurer, bon, je vous dis sincèrement, Pascal, on en a parlé tout de suite. Non, on ne peut pas prendre quelqu'un qui a déjà un mal de chien à gérer la ville de Paris.
Elle a été réélue. Oui. Les Parisiens sont contents d'elle, ils l'ont réélue.
Oui, mais il n'y avait pas. Il y avait tellement d'absents.
Non, vous ne pouvez pas dire ça. Quand tu es élu, tu es élu.
Oui. Moi, je vous dis sincèrement, pour moi personnellement, jamais je voterai pour ces gens-là. Même Marine Le Pen, je ne le voterai pas.
Vous d'accord. Mais vous votez où? Vous votez à Paris?
Non. Ben, ma société, elle siège aussi à Paris, mais non, je vote chez moi à Neuilly-sur-Eure. Mais je vais vous dire sincèrement, on ne peut pas. Vous voyez, bon, j'ai comment il s'appelle Xavier Bertrand. À défaut, je voterai pour Xavier Bertrand. Vous voyez.
Mais pas d'Anne Hidalgo. Bon.
Non.
Je crois que la maire, pardonnez-moi Didier, mais la maire, ou la mairesse, je ne sais pas comment on dit, Mireille Comte-Jobert, est avec nous. D'abord, je la remercie grandement, Madame Comte-Jobert. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle qu'un élève de 7 ans accompagné chez lui par un policier parce que sa mère ne payait pas la cantine. Alors, moi, j'ai eu cette information de manière brute, comme ça, avec Philippe de Maria, et je trouvais ça, comment dire, étonnant. Pour cet enfant de 7 ans, pour l'humiliation qui le reçoit, même si la mère ne paye pas depuis des mois, vous faites pression sur la mère, j'ai bien compris, pour que elle puisse payer. Mais celui qui est la première victime et qui paye les pots cassés, c'est un gosse de 7 ans. Est-ce bien raisonnable, Madame Comte-Jobert ?
Alors, je pense qu'au travers de tout ce qui a été raconté, il vous manque quand même une information assez importante. Et comme on dit souvent, qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, cet enfant ne peut pas être traumatisé parce que nous avons mis en place la récupération de la manière la plus douce possible. C'est-à-dire qu'on a dit à l'enfant, un de nos agents communaux a dit à l'enfant que sa maman avait oublié de dire qu'il ne mangeait pas à la cantine et que comme elle connaissait le policier municipal, elle lui avait demandé de le raccompagner. L'enfant, quand il est monté dans la voiture du policier municipal, il était content parce qu'il montait pour la première fois dans un véhicule.
Oui, mais il aura accès à cette information quand même. Il aura accès forcément que sa mère ne paye pas et qu'il a été ramené chez lui et qu'il y a une forme de chantage qui a été effectuée et dont il est l'objet.
Non, c'est la presse qui s'est... Ça aurait pu rester tout à fait anonyme.
Ah oui, mais, il aurait fallu que ça se sache pas, comme ça aurait été encore mieux.
Mais que l'enfant, quand il est récupéré par le policier municipal, il ne sait pas que sa mère a une dette de cantine.
J'entends bien, mais maintenant il va le savoir, cet enfant, et sa mère lui aura dit. Je trouve que...
Alors, qui le sait?
Je pense que votre responsabilité peut-être est engagée. Ça s'est passé quand, Madame Comte-Jobert?
Jeudi
dernier. Et où vous en êtes avec cette dette de la mère? Elle a payé maintenant?
Pas du tout, elle a dit qu'elle ne paierait pas.
Et donc cet enfant de 7 ans, il va revenir en classe, donc tout le monde sait que sa mère n'a pas payé la cantine et que lui...
La faute à qui?
La faute, vous avez quand même votre responsabilité, madame la maire. Oui. Je ne sais pas si les policiers municipaux sont faits pour raccompagner les enfants. D'ailleurs, ça serait un policier qui n'aurait pas été municipal, je ne suis pas sûr qu'il vous aurait écouté.
Écoutez, c'est vous qui interprétez de votre façon. Quand je raccompagne l'enfant, quand je fais raccompagner l'enfant, je ne lui dis pas que c'est parce que sa mère...
J'entends bien, mais on voit aussi les policiers municipaux, policiers nationaux. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain, loin de là, que des policiers nationaux auraient fait cette mission. Et on voit bien d'ailleurs les policiers municipaux à quoi ils servent. Parfois, c'est agents électoraux ou agents de recouvrement. Je ne sais pas si non plus c'est leur travail.
La seule solution réglementaire que j'avais, ou alors c'était le confier l'enfant aux services sociaux, ce qui aurait été beaucoup plus traumatisant. Là, ça a été fait comme un jeu. Il avait des copains qui étaient très contents et qui l'enviaient de monter dans la voiture du policier municipal. Maintenant, si l'enfant sait aujourd'hui que c'est suite à des dettes de cantine, c'est uniquement parce que les médias se sont emparés de ce fait divers et que la maman a sollicité les médias. Moi, je n'ai sollicité personne et l'enfant n'était pas au courant que la maman avait une dette de cantine. À charge pour elle de prendre ses responsabilités si aujourd'hui son fils sait que c'est suite à une dette de cantine.
Bon, vous avez des enfants, Madame Comte-Jobert ?
J'ai deux enfants et je vous assure qu'il y a 16 000 euros dus par des familles de la commune, qu'on a été très, elle doit depuis 2019, qu'on a essayé par tous les moyens.
Ah non, mais ça, j'en suis sûr, ça, c'est pas le débat. Voilà. Il y a combien d'habitants à Saint-Médard-de-Guizière ?
2400.
Bon, ben restez deux secondes avec nous, on marque une pause. D'abord, je vous remercie d'être venu au micro, hein, puisque c'est intéressant d'entendre votre version. Et puis après, chacun se fait son opinion. C'est un peu le style de cette émission, forcément. A tout de suite, restez avec nous, Madame Comte-Jobert.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Comme. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Madame Mireille Comte-Jobert est avec nous, c'est la maire de Saint-Médard-de-Guizière et c'est cette histoire qui nous avait interpellé, un élève de 7 ans qui est raccompagné chez lui par un policier municipal. Hein, ça c'est aussi intéressant, hein, les policiers municipaux ils sont peut-être pas faits pour ça. Merci en tout cas Madame Comte-Jobert, sauf si vous voulez rajouter un mot parce que c'est... je vous remercie d'être venue à notre micro pour défendre votre position.
Non, mais je n'ai pas de mots à rajouter. Je
vous êtes maire depuis combien de temps de ce petit village ?
Depuis 2014. Je rappelle juste que l'enfant n'a pas été traumatisé.
Non, mais j'ai bien compris. Moi, je pense que il le sera peut-être, ou en tout cas, je trouve que ce n'est pas très délicat. Au minimum, ce n'est pas très délicat. Il n'y a pas mort d'homme non plus. Je ne vous dis pas qu'il y a mort d'homme. Loin de là, il y a des choses plus graves, bien évidemment. Je trouve que ce n'est pas très délicat. Et je trouve que c'est pas une bonne chose sur le principe. Voilà. Même s'il n'est pas traumatisé, ça me paraît pas très convenable. D'ailleurs, tout le monde réagit un peu de la même manière, Madame Comte-Jobert.
Pas du tout. J'ai beaucoup de messages de soutien. Beaucoup
ah bon,
plus
bah écoutez, si. Vous, ah bon, bah c'est, bah écoutez, c'est bien. Si les gens trouvent ça très bien, pourquoi pas. Merci, Madame Comte-Jobert. Il est 14h26. C'est le débrief.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Éric Zemmour n'aura plus d'émission sur CNews après la décision du CSA. La chaîne l'a annoncé ce matin. Coup de gueule de Gérard Ostendard.
Finalement, qu'est-ce qu'il cherche à faire ? À le faire taire ? Il y a un sens commun, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et si on va pas dans le même sens, bon ben là, du coup, on est ou raciste, ou xénophobe, ou homophobe.
Et François ne comprend pas non plus ce retrait.
C'est un acteur du monde politique, certes, mais ça n'est pas un candidat dévoilé.
Sinon, aujourd'hui, Pascal, c'était un peu l'école des fans. Avec notre ami Julien Courbet, par exemple.
Est-ce que vous aimeriez que ce soit une femme qui soit présidente de la République ?
Ouais, j'adorerais.
Le pass sanitaire, ça vous pose un problème ?
Moi, je l'ai, donc ça me permet d'aller partout. Si vous avez une autre question, vous voulez savoir quelle est la capitale du Zimbabwe, quoi, vous me demandez, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Merci, Pascal !
Et Gérard aussi a eu le droit à sa petite question.
Ça s'appelle comment, votre femme ?
Myriam, elle vous embrasse.
Eh ben, fort bien. Et aujourd'hui, mesdames, messieurs, on s'est fait plaisir avec Triane. Groupe Breton a fait ses adieux à 50 ans de scène ce week-end. Un dernier concert samedi soir à Nantes et forcément une envie pour Pascal.
La jument de Michaud et son petit poulain.
Vous allez chanter dans les auditeurs.
Bien sûr.
Ah bah oui, le rossignol de Noirmoutier a encore frappé.
Vous le chantez en breton si vous le souhaitez.
Très belle interprétation. Et l'ami Pascal ne s'est pas arrêté là, non.
La jument de Michaud et son petit poulain. On mangeait tout le foin, on courait dans la prairie.
Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est bon tout ça.
Jument de Michaud, on mangeait tout
ça,
le foin.
On pourra danser dans le studio.
Mais bien sûr. Et nous nous tiendrons par le petit doigt. Bien sûr, quand c'est exactement. Un fest-nose, bien évidemment.
Ben oui, c'est la tradition. Et forcément, Olivier veut intervenir. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Pascal?
Je suis un peu gêné à chaque fois parce que je.
Oui, vous voyez, bien sûr, c'est... je vous comprends.
Ouais, je vous comprends aussi. Mais allez, changez votre discours pour notre monsieur Boubouk.
Je suis attaché à la liberté d'expression.
Alors allez, Olivier, monsieur Boubouk, que voulez-vous nous dire?
Petite question. Est-ce
est-ce que je vais pouvoir venir danser avec Laurent et vous sur la jument de Michao en studio ou pas?
Mais
du tout,
bien évidemment, oui. Cher ami.
On a hâte.
Bon, bah super, merci beaucoup.
Ah bah je sais pas, alors allez Damien Béchaud, musique s'il vous plaît.
Et c'est dans 9 ans, je m'en irai, la jument de Michao a passé dans le pré, la jument de Michao. Bravo. Et son petit boulin a passé dans le pré, manger tout le poing.
Monsieur Richard est là.
Les désastres du Chouchen, quand même.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le Chouchen. Et il y avait une boîte qui s'appelait les Chandelles à Carnac, qui était la boîte de Alain Barrière.
Et, j'adore Alain Barrière.
Bien sûr, il est décédé la dernière, ou il y a 2 ans. Et tout Carnac et toute la Bretagne connaissaient évidemment cette boîte mythique. Qui se terminait à 5h du matin avec des papillotes comme ça. Des papelitos comme en Argentine, vous savez, les petits papiers. Et nous chantions du Triade, cher ami. À demain.
Et à tout de suite dans le pour l'heure du crime.